Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse à l'ouverture du séminaire de la CT. Le général Palaoméros, suivi du secrétaire général, feront des remarques liminaires. Ensuite, vous pourrez poser des questions. Mon général, oui, merci beaucoup, merci de votre présence. Nous avons ici une possibilité singulière d'accueillir le secrétaire général de l'OTAN avec tous les représentants permanents, c'est-à-dire les ambassadeurs auprès de l'OTAN, les représentants militaires et des représentants de groupes de réflexion et des universitaires. Nous voulons ouvrir l'OTAN envers le monde afin de bien préparer l'avenir. Je me félicite de ce que le commandement allié Transformation, que je dirige depuis 2 ans et demi, se situe aux États-Unis. Il est très important d'avoir ce pilier de l'OTAN sur le territoire de ce pays allié hors pair, soit les États-Unis. Alors, sans plus tarder, je donne la parole au secrétaire général Jens Stoltenberg. Merci beaucoup, mon général, et je tiens à vous remercier de l'excellent travail qu'a accompli le commandement allié Transformation. Votre état-major, c'est la présence de l'OTAN aux États-Unis, et de ce fait, vous incarnez ce lien transatlantique qui constitue la colonne vertébrale de notre alliance. Il s'agit de permettre à l'alliance de s'adapter, de se transformer, d'où la grande importance de votre travail. Et ce séminaire que vous organisez aujourd'hui et demain constitue une contribution importante à toute cette réflexion qui doit être menée afin de trouver les solution pour faire face à la nouvelle donne sécuritaire. Vers l'Est, nous voyons la Russie qui a violé les règles du fait de ses agissements agressifs contre l'Ukraine. Le cessez-le-feu dans l'Est de l'Ukraine tient dans l'ensemble, mais il demeure fragile. Ce qui est important à présent, c'est que le cessez-le-feu doit être pleinement respecté et mis en œuvre. Il doit y avoir le retrait de tout l'armement lourd. Et les observateurs doivent pouvoir accéder pleinement sur le terrain afin de constater le respect du cessez-le-feu. Et vers l'est de l'Alliance, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, nous voyons la montée de l'extrémisme violent et ces menaces peuvent engendrer l'exportation de la terreur dans nos rues et dans nos villes. Et afin de contrer ces menaces, nous procédons au renforcement le plus important de notre défense collective depuis la fin de la guerre froide. Nous créons une force fer de lance à très haut niveau de préparation dont certains éléments pourront se mobiliser dans les 48 heures. Nous allons doubler les effectifs de la force de réaction de l'OTAN, voire plus, et les États-Unis jouent un rôle prépondérant à cet égard. L'initiative d'assurance de l'Europe constitue un signal fort de la solidarité transatlantique des États-Unis et l'Amérique a dépêché des avions, des navires et des forces en renfort auprès des alliés du centre et de l'est de l'Europe. Et je salue cette démarche. Les Européens assument eux aussi leur sécurité. La plupart des navires, des avions et des forces qui renforcent l'Est de l'Alliance proviennent de pays européens et ce sont 6 pays européens qui vont diriger cette force fer de lance dans les années qui viennent. C'est l'OTAN à son meilleur, des Nord-Américains et des Européens qui se mobilisent et qui renforcent la sécurité pour nous tous et qui sont unis dans l'action. Nos défis ne sont pas prêts de disparaître. Nous assistons à une nouvelle donne sécuritaire et c'est pourquoi nous nous adaptons à la guerre hybride et c'est pourquoi nous adaptons l'OTAN pour faire face à cette nouvelle donne sécuritaire. La guerre hybride use à la fois de moyens de puissance traditionnelle et de soft power et la guerre hybride se cache derrière un lourd voile de faux-semblants. Donc nous devons nous prémunir contre ces menaces, nous devons affûter nos capacités, nos compétences et nous devons accélérer notre prise de décision. Voilà tout le propos de ce séminaire et je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous présenter et d'indiquer de quelle agence vous provenez. Nous commençons par Madame ici. Je vous remercie beaucoup. Nazira Azim Karimi. de la télévision Ariana de l'Afghanistan. Je suis donc afghane. Je pose une question au sujet de l'Afghanistan. Mon président s'est rendu à Washington et effectue une visite officielle aux États-Unis. Mais je souhaite savoir quel sera le rôle de l'OTAN après 2014, la période 2014 et 2017. Quel sera le rôle de l'OTAN en Afghanistan? Est-ce que Daesh va constituer, à votre avis, un grand défi pour l'Afghanistan? L'OTAN restera solidaire avec l'Afghanistan. Nous venons de terminer notre mission de combat la plus importante de l'histoire de l'OTAN, à savoir la FIAS. Et là, nous passons à la mission Resolute Support, qui consiste à former, à aider les Afghans afin qu'ils puissent renforcer leurs propres capacités et assurer leur propre sécurité. Et nous avons clairement indiqué que dès la fin de la mission Resolute Support, nous allons rester aux côtés des Afghans. À cette fin, nous allons donc instaurer un partenariat durable qui va nous amener à collaborer étroitement avec l'Afghanistan afin d'aider ce pays. Nous allons aussi apporter des contributions financières au profit des forces de sécurité nationale et des forces armées afghanes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'OTAN est entrée en Afghanistan afin d'empêcher que l'Afghanistan ne redevienne un refuge pour le terrorisme international. Nous avons atteint cet objectif et nous avons donné à l'Afghanistan les moyens d'assurer sa propre sécurité. Alors nous en sommes arrivés au stade où nous pouvons remettre le témoin aux Afghans. Toujours est-il que nous allons rester présents et je me félicite de la décision prise par le président Obama de prolonger la période de la présence de forces américaines à hauteur d'environ 10 000 hommes et femmes. Voilà qui montre tout l'attachement des États-Unis et de l'OTAN à aider l'Afghanistan. C'est aussi un signe de souplesse de sa part. David Nikaradze de la télévision géorgienne. Monsieur le secrétaire général, je souhaite vous parler de l'élargissement de l'OTAN. Au sommet de l'OTAN en 2008, les alliés ont convenu de ce que la Géorgie et l'Ukraine devaient à terme devenir membres de l'OTAN. Qu'en est-il? Est-ce que cette promesse tient? L'invasion russe de l'Ukraine n'a pas changé la réalité sur le terrain. Et je souhaite savoir si vous comptez aborder la question de l'élargissement de l'Alliance au prochain sommet de l'OTAN. Il existe un principe fondamental qui veut que chaque pays dispose de la capacité de décider de son avenir, y compris en ce qui concerne son dispositif de sécurité. C'est l'acte final d'Helsinki qui consigne ce principe qui a été cité à maintes reprises depuis lors. Il incombe donc à la Géorgie de décider si elle souhaite devenir membre de l'OTAN et la Géorgie s'est effectivement portée candidate. Et c'est ensuite aux 28 pays alliés de l'OTAN de décider en définitive s'il faut accepter la Géorgie en tant que nouveau pays membre. Si je le souligne, c'est que aucun autre acteur, aucune tierce partie ne peut empêcher la Géorgie de devenir membre de l'OTAN ou exercer un droit de veto. C'est donc dans un dialogue entre la Géorgie et les 28 pays alliés que cette décision doit se préparer. Nous avons lancé une initiative de partenariat considérable avec la Géorgie. Nous avons proposé à la Géorgie un ensemble de mesures considérables destinées à aider la Géorgie à se rapprocher de l'adhésion à l'OTAN. Ce paquet de mesures comporte de nombreux éléments, dont la création d'un centre de formation et d'entraînement. Nous allons envoyer des instructeurs de pays membres de l'OTAN et de pays partenaires. Nous allons organiser des exercices en Géorgie et collaborer étroitement avec ce pays afin de renforcer les capacités de défense de la Géorgie, moderniser celle-ci, et nous allons aider la Géorgie à remplir les conditions voulues afin de devenir membre de l'OTAN. Et le moment venu, ce sont les 28 pays alliés qui pourront se prononcer. Oui, je reviens sur un élément. Au mois de juin, nous allons organiser une grande conférence de partenariat stratégique militaire en Géorgie qui va rassembler des pays alliés et partenaires. Voilà une autre excellente occasion de poursuivre notre collaboration avec la Géorgie. David Lynch de Bloomberg. Ma question porte sur le Sud et le Moyen-Orient. Devant la dégradation de la situation au Yémen, dans quelle mesure est-ce que la stabilité de l'Occident est mise en péril et quelles sont vos craintes? Est-ce que vous craignez un débordement de ce conflit dans la région? Oui, nous sommes profondément inquiets face à la situation dans de nombreuses régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et notamment au Yémen. Tout cela s'inscrit dans une tendance globale. Le terrorisme et la violence se propagent à l'échelle du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est pourquoi, justement, nous devons prendre diverses mesures et c'est pourquoi nous devons être prêts et savoir que tout cela prendra du temps. L'OTAN déploie différents efforts afin de stabiliser la région. Nous travaillons avec nos partenaires, notamment avec la Jordanie, qui joue un rôle déterminant au Moyen-Orient. Nous aidons la Jordanie à renforcer ses capacités de défense et ses capacités de se défendre en tant que pays. Et de ce fait, nous aidons la Jordanie à stabiliser la région, ce qui renforce du coup notre sécurité. Mais ce que nous voyons au Yémen confirme, si besoin en était, l'incidence de les conséquences de cette propagation de la violence. Alors nous devons nous concerter avec d'autres organisations afin de contrer cette menace. Tara McKelvey de la BBC, affectée à la Maison Blanche. Vous n'allez pas donc rencontrer le président Obama cette semaine. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui? Si vous pouviez vous entretenir avec lui, est-ce que vous parleriez de l'Afghanistan ou d'autres sujets encore? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer le président Obama et nous aurons d'autres entretiens aussi. Nos collaborateurs restent en contact et trouveront une occasion convenable pour une autre entrevue. Et j'ai pu rencontrer d'autres dirigeants des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis apportent des contributions très importantes à l'Alliance, s'agissant surtout de renforcer à l'heure actuelle notre défense collective en Europe. Les États-Unis mettent à disposition des forces, des navires et des avions afin de renforcer la présence militaire à l'est de l'Alliance. Et je me félicite de cette décision prise par les États-Unis de rester en Afghanistan plus longtemps que prévu avec des effectifs de quelques 10 000 hommes et femmes jusqu'en 2015. Voilà qui confirme la volonté indéfectible de l'OTAN et des États-Unis de rester aux côtés de l'Afghanistan. Et je salue cette décision. André Bernstein, Sputnik International News. Que pense l'Alliance du budget de la défense des États-Unis qui n'est pas à la hauteur des attentes du Sénat. Certains alliés y voient un certain recul de la part des États-Unis qui devraient en faire davantage, à leur avis. Et pour ce qui est de donner des armes létales à l'Ukraine, le gouvernement n'a pas fait ce choix malgré les pressions exercées par le Congrès. Quel est votre point de vue là-dessus? Les États-Unis sont de loin le pays allié qui consacre le plus de moyens à la défense. Si nous voyons les dépenses de la défense à l'échelle de l'Alliance, les États-Unis représentent près des deux tiers des dépenses globales de l'OTAN en matière de défense. Alors, une fois de plus, cela montre tout l'attachement des États-Unis à la défense collective de l'Alliance. Et comme je le disais, les États-Unis contribuent des forces au renforcement de notre présence militaire dans l'Est de l'Europe. Je sais que ce budget doit faire l'objet d'un débat au Congrès et d'une décision. Mais toujours est-il que les États dépassent ce critère de 2% en matière de dépenses de la défense. Mais nous voyons par ailleurs plusieurs pays alliés de l'Europe qui n'atteignent pas cet objectif qui consiste à consacrer 2% du PIB à la défense. Et j'ai rencontré différents chefs d'État et de gouvernement de pays alliés en Europe et je ne rate jamais l'occasion de souligner la nécessité de tenir cette promesse de juguler les compressions et d'arriver progressivement à atteindre cet objectif de 2% du PIB. Et nous voyons quand même quelques signes prometteurs. Nous avons quelques pays, l'Estonie, la Grèce et le Royaume-Uni, qui atteignent cet objectif, mais la Pologne n'en est pas loin non plus. Et cette année, la Pologne pourrait même atteindre les 2%, sans oublier la Roumanie, les deux autres pays baltes, la Lettonie et la Lituanie, qui augmentent notablement leurs dépenses. Et l'Allemagne vient d'annoncer des augmentations. Alors nous voyons des signes encourageants dans différents pays européens qui renforcent leurs dépenses en matière de défense. Et je vais continuer à les encourager en ce sens. Pour ce qui est de la fourniture d'armement à l'Ukraine, je dois souligner que tous les pays, dont l'Ukraine, ont le droit de se défendre. Un débat a cours dans certains pays alliés sur l'opportunité de fournir des armes à l'Ukraine ou non. Ce n'est pas l'OTAN qui doit prendre une décision là-dessus. L'OTAN joue différents rôles. Nous devons renforcer notre défense collective et apporter un fort soutien pratique et politique à l'Ukraine. Nous avons créé 5 fonds d'affectation spéciale au profit de la modernisation du dispositif de défense de l'Ukraine. Mais l'OTAN, en tant que telle, n'a pas d'armes. Donc c'est à chaque pays allié de décider s'il souhaite en fournir à l'Ukraine ou pas. Encore 2 ou 3 questions, monsieur au fond? Monsieur le secrétaire général, je vous remercie. Markus Pinder de la radio publique allemande. Je dois revenir à cette question. Entre la Russie et les États baltes et la Pologne et la Roumanie, nous ne voyons que l'OTAN qui joue donc un rôle prépondérant. Alors, le président Obama n'arrive même pas à accorder quelques minutes au secrétaire général de l'OTAN, malgré la situation qui représente la menace la plus imminente envers l'OTAN depuis le 11 septembre et puis les attentats du 11 septembre. Alors, oui, j'ai pu, quand je suis entré en fonction l'automne dernier, rencontrer le président Obama. Nous aurons d'autres possibilité de nous rencontrer. Nos collaborateurs cherchent une date qui puisse nous convenir à tous les deux. Et en outre, je communique souvent avec différents dirigeants des États-Unis. L'essentiel, c'est que les États-Unis apportent une contribution considérable à la défense collective de l'Europe. Les États-Unis renforcent leur présence militaire en Europe. Ce dont je me félicite, s'agissant surtout de l'Est du territoire de l'Alliance, c'est très important. Alors effectivement, nous collaborons étroitement ensemble et nous aurons la possibilité de nous retrouver, j'en suis convaincu. Gilles Marquis de Politico, vous avez dit que l'OTAN doit avoir une politique de cyberdéfense plus volontariste. Quelle est la position des pays membres? Dans quelle mesure est-ce que l'on a pu atteindre les objectifs fixés au sommet au Pays de Galles en matière de cyberdéfense? Et est-ce qu'on s'entend sur la nécessité d'avoir non seulement une cyberdéfense, mais une capacité offensive aussi? Oui, parmi les décisions importantes que nous avons prises au Pays de Galles, nous avons déclaré qu'un cyberattentat peut également déclencher la défense collective en vertu de l'article 5 du traité de Washington. Alors, nous sommes formels là-dessus. Une cyberattaque est tout aussi grave qu'une attaque conventionnelle. Et comme je le soulignais dans mon intervention, il en va de notre capacité à la fois de réagir et de protéger nos propres réseaux, mais aussi d'aider les pays à protéger leurs réseaux informatiques. Et nous en sommes à mettre en œuvre ces différentes décisions et à chercher à atteindre les différents objectifs que nous avons fixés. Et dans mon discours, j'ai fait valoir que nous devons faire évoluer notre stratégie de cyberdéfense, et voilà l'une des principales tâches qui nous attendent d'ici le sommet de Varsovie. Nous devons prendre cette menace très au sérieux et nous devons bien sûr renforcer nos capacités, mais aussi multiplier les exercices. Et j'ai pu assister au plus grand exercice de cyberdéfense que nous avons organisé jusqu'ici à l'OTAN, il y a quelques semaines de cela, enfin juste avant les fêtes de Noël. Et cela relève aussi du commandement allié Transformation qui doit organiser les exercices que nous devons mener afin de faire face à ces menaces dans le domaine cyber. Oui, nous évoluons très rapidement. Il y a 3 années de cela, nous réfléchissions à une première capacité initiale. Or, nous avons d'ores et déjà une pleine capacité de surveillance et de protection de nos réseaux, soit notre principale mission, et nous menons des débats au niveau politique et militaire, débats très éclairés, et l'exercice que nous avons organisé a été très fructueux et nous avons permis la participation d'industriels, de pays partenaires, afin que nous puissions tous faire face à ce problème commun. Alors, nous sommes dans la bonne voie. Encore 2 questions. Monsieur le secrétaire général, mon général, Mark Chance, Air Force Magazine. Pouvez-vous tous les deux nous donner vos avis sur ces exercices militaires sans précédent tenus en Russie, quand on voit le lieu où se sont déroulés ces exercices et c'est l'ampleur des exercices? Qu'en est-il de la réaction des alliés aussi? Ce matin, dans vos interventions, vous avez parlé de l'importance du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance face à ces menaces hybrides. De quelles capacités avez-vous besoin au sein de l'Alliance afin de contrer ces menaces à l'avenir? Commençons par les exercices. Chaque pays a le droit, bien entendu, d'organiser des exercices de ses forces. La Russie ne fait pas exception. Mais quand nous voyons ces différents exercices à l'heure actuelle en Russie, c'est que cela s'inscrit dans un schéma d'ensemble. Nous voyons une Russie plus affirmés, plus volontaristes et qui mènent des actions agressives en Ukraine. Nous voyons que la Russie a investi lourdement aussi afin de se doter de nouvelles capacités militaires. La Russie a des exercices de plus en plus fréquemment et la Russie a montré qu'elle était prête à recourir à la force afin de redessiner des frontières et d'annexer une partie d'un autre pays. Et ce qui est surtout important, c'est que l'on organise de plus en plus du côté russe des exercices sans préavis. Et voilà qui ne va guère dans le sens de la transparence et de la prévisibilité. Ces exercices sans préavis ont été organisés aussi afin de cacher la projection de forces en Crimée. Alors des dizaines de milliers de soldats participent à ces exercices. Tout cela nous inquiète, bien entendu, parce que la transparence en souffre, la prévisibilité aussi, et comme nous l'avons vu, ces exercices servent aussi de leurre pour cacher la projection de forces réelles. Alors, c'est pourquoi nous relevons l'état de préparation de nos forces. Nous avons doublé les effectifs de la force de réaction de l'OTAN et nous mettons sur pied ces unités de commandement de l'OTAN dans 6 pays alliés. Et nous allons renforcer notre présence militaire et multiplier les exercices. Alors, nous réagissons à ce que nous voyons du côté russe. Le général, oui, tout à fait. C'est à moi qu'il incombe d'organiser les meilleurs exercices qui soit pour l'OTAN, et je dois souligner que l'OTAN organise et planifie et mène ses exercices dans la plus grande transparence. Nos exercices ont pour objectif d'entraîner nos effectifs à mener toute la gamme des missions de l'OTAN, missions qui sont bien connues, qui visent la stabilisation et le maintien de la paix. Alors, à l'automne, en octobre et en novembre, nous aurons des exercices réunissant quelques 30 000 soldats en Espagne, en Italie, au Portugal, donc au sud de l'Alliance. Voilà qui affiche l'action de l'OTAN qui se prépare donc à mener tout l'éventail des missions, en l'occurrence au sud de notre territoire, même si nous restons très présents à l'est. Et vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir observer ces exercices et voir cet entraînement que nous menons en fonction de nos missions. Une dernière question de la Pologne. Oui, je suis de l'agence presse polonaise. J'enchaîne avec la question précédente. Si la crise en Ukraine perdure, souhaitez-vous au sommet de Varsovie renforcer la présence militaire? Je n'ai pas tout à fait compris. Oui, si la crise avec la Russie en Ukraine perdure, souhaitez-vous que l'Alliance décide au sommet de Varsovie de renforcer davantage la présence militaire de l'Alliance dans l'Est de l'Europe et de quelle manière précisément? Nous en sommes à nous adapter en permanence et nous avons déjà renforcé la présence militaire, surtout en Pologne en effet. Nous avons des missions de police du ciel. Nous mettons sur pied ces nouvelles unités de commandement qui sont très importantes malgré leur petite taille. Il s'agit d'établir un lien entre le dispositif de défense nationale, de la Pologne en l'occurrence, et les moyens de défense multinationaux de l'OTAN. Ce sont donc ces forces d'intégration, ces unités d'intégration de forces qui facilitent le renforcement. Il y a aussi à Szczecin le QG du corps multinational Nord-Est qui doit jouer un rôle déterminant pour cette nouvelle force fer de lance. Et là encore, c'est situé en Pologne. Et au fur et à mesure de l'évolution de la situation, nous allons évoluer les besoins en fait de renfort. Mais nous devons trouver un juste équilibre entre l'organisation d'exercices et la mise en place de ces unités de commandement, les missions de police du ciel dans la mer Balte. Et par ailleurs, nous devons renforcer notre capacité de renforcement. Donc, si nos forces sont à un niveau de préparation plus élevé, ces forces n'ont pas à être présentes en permanence, un endroit précis, mais nous pouvons les mobiliser très rapidement et nous renforçons aussi nos moyens de surveillance, de reconnaissance et de renseignement. Tout cela nous permet d'apporter des renforts au moment et à l'endroit voulu. Oui, comme le disait le secrétaire général, nous renforçons nos capacités d'évaluation stratégique et de mise en commun d'éléments de renseignement de manière plus rapide. Nos forces deviennent plus agiles et plus résistantes. Ce sont là autant d'axes d'efforts que nous poursuivons ensemble d'ici le sommet de Varsovie et au-delà, soit le thème de notre séminaire. Merci.